Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le bistrot du vélo comme tous les lundis, qui plus est en cette période chargée du Tour de France. On est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure pour parler, pour échanger autour de notre passion commune, le cyclisme, la bicyclette, le vélo. Je vous propose tout de suite de découvrir le menu du jour. Au menu, aujourd'hui une mise en bouche danoise, journée de repos sur le Tour, mais trois étapes au Danemark qui nous ont marqué. On en parlera avec notre invité Saveur d'Antan, une émission consacrée au Tour de France, vous l'aurez compris. Les coulisses, la face off et puis le dessert du jour, le fameux questionnaire du bistrot vélo. Un invité de prestige aujourd'hui en cette période du Tour de France, il fait l'actualité. C'est un homme de l'ombre, le mécanicien du Tour de France, appelez-le comme vous voulez, pendant un peu plus de 30 ans. Jean-Louis Pagès nous fait l'honneur d'être notre invité. Salut Jean-Louis, comment ça va ?
Bonjour Sébastien, ça va très bien, je te remercie.
Oui, ça va.
Tout va bien.
On est ensemble pour un peu plus de 30 minutes. Alors Sébastien, c'est le réalisateur. Moi, c'est Colin, Jean-Louis.
Mais
il n'y a pas de souci, je comprends, tu es très chargé puisque il y a ton livre qui fait l'actualité en ce moment.
Oui,
le Tour de France, côté Verso, aux éditions Kenest, c'est un petit peu en barlingue à travers la France pour les séances de dédicace. C'est bien ça, Jean-Louis ?
C'est un peu ça, en effet. J'essaie de satisfaire les demandes parce que je retrouve, grâce à cette écriture, nombre de personnes avec lesquelles j'ai travaillé et qui me disent « Oui, on a acheté le bouquin, mais tu viens le signer quand ?» Donc je m'emploie à ça avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Et je me régale de le faire. Aujourd'hui, je suis à Brive-la-Gaillarde. Et puis, à la fin de la semaine, je serai du côté de Liège, à la Maison des Sports, qu'on connaît bien avec le Tour de France et Liège-Bastogne-Liège.
Le Tour de France, Jean-Louis Pagès, c'est deux noms qui sont associés. Jean-Louis Pagès, pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien directeur des sites du Tour de France. Alors, Jean-Louis, tu vas nous expliquer en quoi exactement ton rôle a consisté pendant un peu plus de 30 ans, 34 ans si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on connaît tous le Tour de France à la télévision, les coureurs, mais on connaît moins ce qui se passe derrière. Et toi, justement, tu étais l'homme clé de ce qui se passait derrière.
Oui, alors moi, je suis rentré sur le Tour de France. Alors, ça va paraître paradoxal. Je suis rentré sur le Tour de France par hasard, par un lien de parenté avec Jean-Luc Théron, qui était mon cousin et qui cherchait quelqu'un pour le conduire pendant le Tour 84. Il a eu un désistement au dernier moment. J'étais dans l'éducation nationale, je suis prof d'histoire-géographie. Et en l'occurrence, bon, j'étais disponible, puisque éducation nationale, pendant les deux mois d'été, on est en vacances. Et donc, j'ai découvert le Tour en 84, j'y suis retourné en 85, et on m'a fait une proposition d'embauche à laquelle j'ai répondu favorablement, parce que voilà, j'ai découvert un monde qui m'a beaucoup plu, et je suis rentré définitivement à la Société du Tour de France en 1986, en février exactement.
Oui, parce que ça s'appelait à l'époque la STF, la Société du Tour de France, c'est ça.
Tout à fait, basé dans les journaux, les bâtiments du journal L'Équipe, donc 10 rue du Faubourg Montmartre à Paris.
Oui.
On a déménagé. Et donc, on était en mitoyenneté avec tous les journalistes, etc. Enfin, voilà, je découvrais un monde qui n'était pas du tout le mien. Et j'ai été mis tout de suite dans le bain en 86 avec des repérages directement sur les étapes, les sites d'arrivée, les sites de départ. Alors, à l'époque, j'étais plutôt sur les sites de départ. Le travail consistait à repérer et à pouvoir envisager l'installation des moyens du Tour, qui n'étaient pas évidemment ceux d'aujourd'hui. Les surfaces étaient beaucoup moins importantes. Le village du Tour n'existait pas. Si je te dis qu'en 84-85, c'était Robert Paparambord et l'équipe du Racing avec les juniors qui servaient du Banania le matin, puisque Banania était le sponsor du maillot jaune.
Oui, j'ai lu cette superbe anecdote avec les rugbyman dans le livre. C'était génial.
C'est ça. Et donc, il servait du Banania le matin. Et un des directeurs qu'on a un peu oublié, en fait, on ne le cite jamais trop, mais c'est, alors je les évoque dans mon récit, c'est M. Naquet Radiguet qui a décidé d'organiser, en tout cas de mettre en place un village départ dans lequel pouvait venir, exactement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, évidemment, il a des proportions et des surfaces absolument énormes, c'est 5000 m², quelque chose comme ça, alors qu'au début, c'était 500 m², il y avait 10 pavillons. Le village était en bois, c'était des structures en bois. Les coureurs venaient dans le village à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est moins le cas puisqu'ils restent dans les bus. Mais c'était un lieu d'accueil et il y avait même un coiffeur. Il y avait un coiffeur pour les coureurs. Enfin voilà, donc c'était une autre époque. Et c'était les prémices évidemment de la transformation du Tour. Et après le départ, évidemment, on est passé aux arrivées. Mais en tout cas, pour le travail à proprement parler, c'était donc repérer dans les villes étapes qui étaient candidates. Et puisque tu le sais, il y a beaucoup de villes qui sont candidates. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a entre 220 et 250. En tout cas, Christian Prudhomme pourrait le confirmer. Et en l'occurrence, donc, c'était visiter de manière anonyme dans un premier temps les villes pour savoir s'il était possible de mettre en place ou un départ ou une arrivée. ensuite donner un avis technique au patron du tour, et ensuite il décidait, on n'y va pas, et alors, présentation du tour officiel, et à partir de là, donc, les réunions commençaient, les réunions officielles dans les mairies et les préfectures.
Ouais, c'est très complet et ça représente énormément de choses. Vous êtes déjà très nombreux sur le live Facebook. Un coucou à Dominique, à Stéphane. N'hésitez pas à vous poser vos questions à Jean-Louis, notre invité. On n'est pas là pour faire de l'auto-promo, pour faire la promo, mais sincèrement, je te l'ai dit en off, hein, Jean-Louis, ton livre, je l'ai dévoré en 2 heures. Pour tous les amoureux du Tour de France, je le dis très sincèrement, n'hésitez pas, foncez dans toutes les bonnes librairies, le Tour de France côté verso, c'est un
c'est
régal
gentil.
Plein d'anecdotes. On en donnera quelques-unes dans ce bistrot vélo, on ne les donnera pas toutes, on réservera la surprise. Jean-Louis, avec ces dédicaces, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de suivre quand même ce qui s'est passé au Danemark depuis 3 jours, le grand départ du Tour?
Eh bien non, Colin, je n'ai pas suivi, c'est-à-dire que je l'ai susurré au départ, j'espère que je n'ai froissé personne, je ne suis pas un spécialiste du vélo, je ne regarde pas nécessairement le Tour de France, hormis sur un aspect purement technique, savoir
oui,
les installations, enfin je regarde, oui, hier je regardais ouais, la tribune de presse, à quel endroit elle est posée, avant la ligne d'arrivée, après la ligne d'arrivée, donc mon regard est attiré par ça, pas par la course, puisqu'en fait il y avait des spécialistes, et il y en a aujourd'hui évidemment, mais je n'ai pas vraiment suivi, hormis bien sûr au travers des infos, a priori on attendait le vent, il n'y a pas eu de vent, enfin il y a des choses comme ça, mais qui sont très, très générales et très généralistes, mais je ne suis pas un passionné. Je pense que ça m'a servi d'ailleurs, hein, Colin, parce que je n'étais pas obsédé par les pédaliers, le matériel, les coureurs, la tenue, la position, etc. Donc, mon regard m'a été fixé sur l'organisation à proprement parler. Si tu veux, je commençais le tour, chaque tour, je le commençais comme dans une compétition sportive. Je n'ai pas été sportif de haut niveau, j'ai un peu joué au foot, mais je me voyais au début donc, d'une compétition dans un couloir. J'avais ce couloir à respecter. À ma gauche ou à ma droite, peu importe, Gouvenou et avant lui Jean-François Pécheux, qui eux étaient sur la partie sportive. De l'autre côté, il y avait le marketing et les sponsors qui eux aussi étaient prêts à partir. Donc, si tu veux, on était sur une rangée au départ et on devait rendre la copie pour que arriver à Paris avec les meilleures conditions possibles et que tout fonctionne. Chacun avait son rôle. Et on était prêts, quoi. On ne laissait rien au hasard. En tout cas, on essayait de ne rien laisser au hasard. Il y a bien eu des impondérables qu'on a gérés, mais bon, voilà, c'était très agréable. En tout cas,
oui,
j'ai passé, moi, 30 et quelques années de vrai plaisir à organiser cette course phénoménale. Si tu veux, le livre que j'ai écrit, c'est évidemment un hommage au Tour, parce que je n'ai pas l'impression, attention, je ne veux pas être prétentieux, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, quelqu'un de si proche du terrain ait écrit un livre comme ça. Et je voulais rendre hommage, évidemment, au Tour, mais à tous ces gens de l'ombre qui n'existent
exactement.
Pas.
Exactement, oui,
les
c'est ça.
Tu sais, au théâtre, il y a les silhouettes quoi, qui mettent en valeur les vedettes. Et moi, j'ai vécu pendant ces 30 et quelques années, alors je suis passé par tous les postes, puisque j'étais au départ, j'ai vérifié les parcours, enfin… Aujourd'hui, il y a un commissaire général pour les départs, un commissaire général pour les parcours, un commissaire général pour les arrivées. Moi, je suis passé par tous ces postes-là, avec, pendant ces 30 et quelques années, une transformation radicale du Tour. Quand j'évoquais 84-85, les guéridons Banania, ensuite le village en bois, la tribune de presse.
Tu n'avais pas Internet en 1984
? Et non, on s'arrêtait dans les cabines téléphoniques pour téléphoner à la préfecture en disant qu'on serait en retard. C'est ça le truc, en fait. Et donc, et ça marchait. On n'avait pas de toki, on n'avait pas de truc, en fait. Mais évidemment, on était très débrouillards. Ils le sont aujourd'hui aussi. Attention. Et les outils permettent justement de faciliter les choses. Mais en tout cas, c'était une autre période. Alors, je l'ai écrit, oui, le Tour n'était pas mieux avant ni moins bien aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de comparaison. C'était différent. Alors aujourd'hui, il est avec son temps, le Tour. Et il utilise tout les outils possibles et imaginables. Enfin, moi, tous les plans que je faisais pour les sites de départ ou les sites d'arrivée, c'était des plans cadastraux au 200e ou au 500e, avec un kutch, avec des crayons de couleur, avec des gommettes. Et, alors qu'aujourd'hui, évidemment, Google Earth permet d'aller beaucoup plus rapidement et d'avancer.
Ouais, c'est beaucoup plus facile, effectivement, aujourd'hui. Effectivement,
les outils permettent la facilité.
Bien sûr.
Bon, le travail est là quand même.
On le disait dans la présentation, l'homme de l'ombre. Moi, j'ai pu parler avec certaines personnes qui ont travaillé avec toi. On me disait qu'on t'appelait Monsieur Millimètre. Le matin, il y avait des briefings, apparemment, il ne fallait pas rigoler. Tu étais sur un tracteur ou un chariot élévateur, un petit peu en hauteur, et tu avais toutes tes équipes devant toi. Et tu donnais les consignes, tu dispatchais, c'était vraiment le maître d'œuvre, quoi.
C'est ça, c'est le contre-maître. Alors, moi, je me suis toujours considéré comme un... Alors, tu parles de l'ombre. Je suis considéré comme un maçon. Et très gentiment, Jean-Marie, Christian Prudhomme m'ont dit, non, tu étais un architecte. Alors après, il y a évidemment cet aspect-là des choses, mais en même temps, il y a la gestion des hommes. Et moi, j'étais très attaché. Je sais que ça se fait aujourd'hui, peut-être de manière moins soutenue, mais ça se fait. Je suis convaincu, si tu veux, que quand tu pars sur le tour, tu pars. C'est une équipe, en fait, qui s'en va. Et donc, en l'occurrence, pour les années où j'étais sur la ligne d'arrivée, il y avait toujours ce briefing qui était important à 8h, 8h30 du matin, où on arrêtait tout. Des coups de klaxon, on s'arrêtait et on venait vers la ligne d'arrivée. Et là, moi, depuis le matin, puisque j'ai tendance à me lever tôt, mais là, c'était très, très tôt dans les premières années avec la tribune de presse qui était un échafaudage, alors qu'aujourd'hui, c'est des structures beaucoup plus modernes avec des boutons électroniques, etc. Donc, avant, il y avait 45 personnes qui installaient la tribune de presse avec des échafaudages. Il y avait deux banderoles, une l'équipe, une le Parisien. Et vous, journaliste, vous étiez installé dans cette tribune de presse. Vous preniez le vent, la pluie, etc. Donc, petit à petit, évidemment, les choses sont améliorées. On a mis des sortes d'ailes d'avion grises. D'ailleurs, dans l'ouvrage, à la fin, il y a des photos où on voit qu'on essaie de protéger au maximum. Et petit à petit, on est arrivé à ces structures, notamment donc des camions, avec simplement 4 monteurs ou 5 monteurs. Ouais, alors qu'en fait, à l'époque, il y en avait 40. Donc, tout ça a permis de gagner du temps, de gagner des heures de sommeil. Mais ce moment du briefing, pour moi, était important, certes, pour donner des consignes en disant « Attention, demain, on est à Luzardiden, ça va être un peu compliqué, il faut que vous arriviez à telle heure, on va débuter le montage d'abord par la ligne d'arrivée, puis la tribune de presse et après le protocole. » Donc, il y avait tout un processus qui faisait que. Mais ce qui était important aussi, et qui chose à laquelle moi j'étais très attaché, c'était ce contact avec les équipes, savoir… dans leur regard, dans quel état ils étaient.
Ah, ce côté de management, de relationnel.
On appelle ça comme ça aujourd'hui, mais ouais, ils étaient fatigués, pas fatigués. Il y en avait un qui avait, je sais pas moi, tu sais, il t'arrive toujours des trucs.
Bien sûr.
Tu pars de chez toi et ton épouse, et moi j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi sur le tour, mais son épouse, à un moment donné, elle a voulu passer la tondeuse, elle s'est mis les doigts dans les lames. Donc, il était avec moi, donc ça le perturbait. Est-ce qu'il reste avec moi? Est-ce qu'il a continué? Donc si tu veux, tout ça, tous ces détails faisait que, à ce moment-là, pendant cette demi-heure d'échange et de briefing, moi, je sentais les équipes. Évidemment, on y rajoutait un petit casse-croûte qu'on demandait à la ville, ce qui permettait là aussi d'arranger les choses et de faire le lien avec la ville. C'est-à-dire que, certes, on évoque les techniciens du Tour, mais le Tour ne serait rien sans les villes-étapes et notamment les techniciens qui étaient disponibles et qui posaient les barrières, qui mettaient en place la salle de presse, etc. Donc, tout ça formait une équipe. Et je pense que le Tour ne peut pas fonctionner sans cet état d'esprit.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. Alors, tu l'as vu, c'est l'actualité. Tu as dû en entendre parler, les fameux grands départs à l'étranger. Il y en a eu beaucoup depuis dans l'histoire du Tour. Parfois décriés, comme celui-là au Danemark. C'est plus vraiment le Tour de France, partir à l'étranger. Toi qui en as vécu beaucoup, je sais qu'il y en a qui t'ont marqué, comme Berlin, le Yorkshire également en 2014. Tu as une petite anecdote comme ça? Il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, un départ à l'étranger, où c'était... peut-être un peu plus compliqué à organiser, un peu plus de stress.
Alors, évidemment, Berlin, pour toute la symbolique, et puisque 2 ans après, le mur est tombé, enfin, mais on est quand même parti de Berlin-Ouest, qui était situé, donc il fallait passer le mur, les Vaupeaux, etc. Donc ça, c'était plutôt une atmosphère. Le Tour 92, moi, m'a marqué. On partait de Saint-Sébastien. Alors, je crois comprendre, enfin, c'est un secret de polichinelle, que l'an prochain, Bilbao accueillera le grand départ du Tour. Donc, en 92, on est parti de Saint-Sébastien. Donc, ça sera le deuxième grand départ d'Espagne. Et 92, on visitait les 6 pays de la Communauté européenne. Ouais. C'était un souhait de Jean-Marie Le Bar, plus la France. Donc, tu imagines la coordination qu'il faut avoir entre les différents pays. C'est-à-dire que, certes, la garde républicaine nous a accompagnés partout, mais il fallait faire comprendre aux policiers belges, aux policiers italiens, qu'ils avaient la main, ils étaient chez eux, mais qu'en même temps, c'était la garde républicaine qui nous accompagnait, qui nous aidait notamment dans les phases d'évacuation. Donc, Ce tour-là, moi, m'a marqué parce qu'il y avait énormément de pays. Il fallait coordonner tout ça et c'était très compliqué. Ensuite, bien sûr, 98, l'Irlande. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était ce grand départ. Alors, on en parle, vous l'avez vécu aujourd'hui. Ce qui est compliqué sur un grand départ à l'étranger et loin, c'est le retour.
Le transfert.
C'est pas l'aller.
Ouais,
voilà,
ouais.
C'est pas l'aller. Il faut qu'au retour, les mecs, ils loupent pas l'avion, ils loupent pas les bateaux. À ce titre-là, donc j'évoque 98, mais 2013 encore, ça a été un truc phénoménal. Puisque
parle-nous de ce bus, Jean-Louis, parle-nous de ce bus, parce qu'il y a un épisode dans le livre. Moi, j'y étais au départ en Corse, et je t'avoue que j'étais un petit peu plus jeune, mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Je me souviens encore, j'étais sur la ligne d'arrivée pas très loin, et je me souviens de tous ces gens qui couraient dans tous les sens, mais il y avait une sorte de calme en même temps, et tu le décris assez bien dans ton livre, le bus qui était bloqué, tout simplement. C'était quelque chose
c'est
de
bloqué,
fou.
Ouais. Alors, cette histoire du bus, j'en suis le fautif, puisque tous les bus équipes étaient déjà arrivés à ce moment-là. Il faut savoir que quand on construit la ligne d'arrivée, il y a le portique d'arrivée qui correspond donc au portique où la ligne d'arrivée est tracée. En l'occurrence, le matin, donc ce portique est à une hauteur qui permet de laisser passer les camions dessous, parce qu'on manœuvre, parce qu'on met des barrières, parce qu'on enlève du matériel, etc. On laisse passer, donc on attend l'arrivée de la caravane publicitaire, et en l'occurrence aujourd'hui, et c'était le cas en 2013, des bus équipes qui passent sous le portique d'arrivée. Là aussi, ça fait un spectacle, évidemment, on voit arriver les bus équipes, la caravane publicitaire, et dès que la caravane publicitaire est passée, on baisse le portique d'environ 1 mètre, grosso modo 1 mètre, ce qui fait que plus aucun véhicule haut ne peut passer. C'est pour des raisons de cadrage, etc. Ce jour-là, tous les bus des équipes sont déjà à l'arrivée, ils sont passés sous le portique, la caravane publicitaire est passée, on abaisse le portique. C'est le premier jour du tour. Donc on est quand même un peu en rodage, même si tu as 30 ans de boutique, machin, donc c'est toujours un peu… Et moi, à ce moment-là, donc, le commissaire de police de Bastia vient me voir, il me dit « Jean-Louis, on a un petit souci, il y a un bus qui a voulu aller à l'hôtel,
mais pas passé.
Et en fait, il se rend compte que son hôtel est vachement loin, il est paumé dans la campagne, machin, donc il se dit « Non, je vais rejoindre l'arrivée, malgré tout, je vais à l'arrivée, je récupérerai les coureurs à l'arrivée, puis on partira après. » Donc, il demande l'autorisation. Il est à 5-6 km de l'arrivée. Je dis « Oui, d'accord, ok. » Les coureurs, je crois, étaient à une trentaine de kilomètres, grosso modo, en fait, c'est une fourchette. Je dis « Oui, oui, allez, on le fait rentrer. » Donc, à 5 km, on ouvre les barrières, le gars se présente. Et à ce moment-là, donc, quand il arrive doucement, donc il y a moi, je suis en train de repousser les photographes, tu sais ce que c'est, qui veulent être très près de la ligne d'arrivée pour faire les belles photos. Si ce n'est qu'évidemment, la sécurité des coureurs est primordiale. Et moi, je me gendarme un peu, mais gentiment, en disant « Non, les mecs, reculez, quoi, vous êtes trop près, ça va arriver en paquet. » On voyait les images, évidemment, sur l'écran géant. Ça va arriver en paquet, reculez, reculez. Donc, je suis à environ 40, 50 mètres, 60 mètres de la ligne d'arrivée. Je les fais reculer gentiment. Donc, je suis dos à la ligne d'arrivée. Hein, la ligne d'arrivée est derrière moi. Donc, je les repousse gentiment. Allez, les gars, repoussez encore un peu les deux cordons photographes, etc. Sur la ligne d'arrivée, il y a un contrôleur qui s'appelait Serge, je ne sais pas s'il y est toujours, qui, lui, gérait un petit espace dans lequel on positionnait des personnalités, juste en dehors de la chaussée, histoire d'être bien placé au moment de l'arrivée. Style Christian Prudhomme arrive, il descend de sa voiture, il se met là avec son invité, et évidemment, il est dans le feu de l'action. Il y a une anecdote, d'ailleurs, à propos de ça. Ce refuge, il a une raison d'être, hein. C'était qu'à l'époque, notamment à Bordeaux, Monsieur Juppé était maire de Bordeaux. Il était dans la voiture de Jean-Marie Leblanc, et la voiture de Jean-Marie Leblanc passait la ligne d'arrivée, et elle allait dinguer à 50, 60, 70 mètres de la ligne d'arrivée, ce qui fait que le temps qu'il descend de la bagnole, il ne voyait pas le sprint, quoi. C'était mort, et donc il était évidemment frustré. Et c'est pour ça que ce petit espace a été créé à un moment donné.
D'accord.
Donc Serge est en train de créer l'espace, et le bus arrive doucement. Hein. Il arrive, mais doucement. Et pam, comme on dit chez moi, il se tanque sous la ligne d'arrivée, sous le portique. Et là, il est bloqué. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Donc, moi, j'étais à 100 mètres, grosso modo, de la ligne d'arrivée. Je me retourne, j'entends le bruit. Et ce que tu viens de dire, c'est que tout le monde est là, tu sais, mais tu as tous les gens qui veulent donner un avis, quoi. Et avance et recule et machin et truc, et fait ci et fait ça. Donc, moi, j'avais déjà vécu un peu cette situation en 98, au retour d'Irlande. Il y avait deux éléments de la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée à proprement parler, c'était un semi-remorque, et le protocole qui était en retard. Le bateau était arrivé en retard, donc il était accompagné par la gendarmerie départementale. Donc, il lui restait 10 minutes pour s'installer. Là, pareil, j'avais sorti tous les gens qui n'avaient rien à faire sur la ligne d'arrivée et il avait manœuvré avec facilité. Ça m'est revenu en mémoire quand j'ai vu ce bus planté. Donc, évidemment, j'ai gardé les éléments majeurs de la ligne d'arrivée. Il y avait Stéphane, il y avait les pompiers, il y avait le commissaire de police. Et donc, on a évacué les gens. Stéphane s'est occupé d'aller chercher un emplacement pour sortir le bus éventuellement. Il y avait donc le technicien hollandais qui s'occupait du portique, qui était là, parce que c'était un grand départ, donc il lançait l'affaire. Et lui nous dit la solution, attention les gars, il ne faut rien toucher pour l'instant, il faut caler le portique verticalement. Imagine que tu enlèves le bus et que le portique s'écrase, c'est mort, tu ne rattrapes rien du tout.
Et puis il n'y a plus d'arrivée.
Il n'y a plus d'arrivée possible, en fait. C'est sur la chaussée, ce n'est pas bon. Donc, il dit on va caler verticalement. Donc, très très vite, ils ont calé verticalement, avec des cales verticales. Le portique était consolidé. Et là, donc, on a commencé, enfin, les pompiers, à dégonfler les pneus, etc. Et donc, Stéphane avait ouvert les barrières à une centaine de mètres. Le bus a reculé et hop, il est sorti et l'arrivée a pu avoir lieu. Et cette gestion-là, si tu veux, dans l'immédiateté, ça relève aussi d'une technique qu'on m'a pas apprise, mais que j'ai appliquée, j'ai tenté d'appliquer. Il fallait que je sois une éponge, en fait. Si tu stresses comme tout le monde,
ouais, c'est
tu
pas bon.
Stresses le monde, c'est pas bon. Donc j'ai pris, on prend sur soi, et évidemment, on a eu du pot, on a réussi à sortir le bus, en fait, ça s'est bien passé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour ce bus, parce que le portique était en vrac. Et le portique, c'était le premier jour du tour. Donc tu fais comment après pour arriver à Paris? Donc le samedi soir à Bastia, donc il est 10h du soir, j'appelle moi Monsieur Fabre, donc qui était mon interlocuteur à Ajaccio. Je lui dis, écoute, tu as vu, on est embêté, le portique est en vrac, on a réussi un peu à le plier pour faire la route, mais bon, demain il faut le déplier, on n'y arrive pas. Enfin, il faut détendre cette partie métallique. Il me dit, oh, attends, mais tu te rends compte de trouver un métallier un samedi soir à 11h du soir
en Corse en plus.
c'est une attaque, c'est une attaque.
C'est gratuit, perfide, c'est gratuit.
Ouais, c'est gratuit. Et en l'occurrence, donc. Pas de nouvelles. Donc, moi, j'arrive à l'hôtel, mais bon, j'arrive, il est 11h du soir. Enfin, on ne dort pas, évidemment. À 3h du matin, on est de nouveau sur la route des Sanguinaires. Là, je me rends compte, en y arrivant, que tous les camions sont là. Tous les camions sont là et j'aperçois une petite voiture blanche, là, une sorte de camionnette blanche. Et ça m'est arrivé ailleurs, en fait, ça nous est arrivé ailleurs d'avoir un berger qui monte en montagne pour voir ses bêtes, machin. Le mec est planté au milieu et on lui dit gentiment, écoutez, monsieur, il faut partir, en fait. Vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas repartir, c'est la zone technique du tour, on va installer des camions, des câbles, des machines, des trucs, enfin. Donc ce monsieur, je vais le voir, je dis, monsieur, mais que vous faites quoi là? Il faut ne rester pas là, enfin, la route des Sanguinaires, ça va être fermé, ça. Vous êtes bloqué, et très gentiment, ce monsieur est un peu fort là, avec, si mes souvenirs sont bons, il avait un Marcel, enfin machin, le type très décontracté à la portière de sa voiture. Il me dit, mais on m'a appelé parce qu'a priori, il y a un bout de fer à redresser. Alors là de suite évidemment j'ai été chercher le technicien de Movico. On a sorti la pièce métallique et il a soulevé la pièce mécanique et on lui disait, on était très insistant, et vous pouvez la réparer, vous pouvez faire quelque chose. Enfin, alors il la tourne dans tous les sens, puis il nous dit ça je peux le faire. Et comment vous pouvez le faire? Ben il faut qu'il vienne à l'atelier avec moi parce que j'ai une presse. Ils sont partis 2 heures après, ils sont revenus. Évidemment la pièce a fonctionné, le Tour de France a terminé. Avec ce portique-là, donc, initial. Et moi, pour remercier ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous êtes invité du tour, revenez cet après-midi, je vous donne des invitations.
Génial.
Vous avez des enfants, des petits-enfants, des machins. Et il me dit, oh, moi, vous savez, le tour. Hein. Et il est parti dans son kangou et on l'a plus jamais revu. J'ai pas de ses nouvelles, mais bon.
Peut-être qu'il nous regarde. Allez savoir.
Et le tour lui doit une fière chandelle. Non. Donc, il y a eu ce départ, oui, encore, ça me fait... Il y a eu plein de grands départs comme ça qui m'ont marqué. Londres était phénoménal. Je sais qu'au Danemark, il y avait énormément de monde, mais à Londres, en 2007, il y avait 1 million de spectateurs quoi, dans les parcs royaux, autour de Buckingham. En fait, c'était extraordinaire. Quoi. C'est vrai que c'était marquant.
C'était complètement fou. Et des anecdotes comme ça, il y en a partout dans le bouquin. Alors, c'est vrai que quand vous lirez ce livre, et je vous le conseille à tous, hein, chers fidèles de Bistro Vélo, on parle pas beaucoup de ce côté sportif. Parce qu'on l'a compris, quand tu es arrivé professeur d'histoire géo, c'était pas vraiment ton dada, le vélo. Mais force est de constater que tu as été confronté aux sportifs avec le Tour de France, et notamment à tout ce qui est les polémiques qui ont émaillé le Tour ces dernières années. Comment, toi, tu as vécu, Jean-Louis, par exemple, 98, l'affaire Festina, les années Armstrong, même si tu n'étais pas directement lié au côté sportif, j'imagine que ça devait discuter entre les équipes le matin.
Oui. Tout à fait. Mais si tu... Alors, évidemment que ça discutait. Mais je considérais mon rôle, en fait, comme étant... Il fallait surtout pas que le directeur du Tour, en l'occurrence Jean-Marie, soit embêté par ce genre de...
D'accord.
Des soucis techniques. Si tu veux, il fallait pas rajouter des problèmes aux problèmes. Donc, j'ai toujours considéré qu'en fait, ma mission, en tout cas sur la ligne d'arrivée, parce que j'ai terminé là, au-delà des réunions dans les mairies, les préfectures, etc., c'était... Surtout de l'objet de ce souci-là éventuel. D'ailleurs, les dernières années, avec Christian Prudhomme, un petit malin plaisir, je faisais une photo de la ligne d'arrivée à 10h ou 11h du matin quand on était quasiment prêt, en lui disant « Écoute, voilà, tu peux envoyer, ça y est, on est prêt. » Donc, j'ai évidemment vécu tout ça de manière particulière. J'étais dans le bouillonnement de cette année 98 qui était particulière. Alors, il y a eu l'étape de Corrèze, il y a eu l'éviction de l'équipe Festina. Donc là, il fallait surtout que Jean-Marie soit concentré et Jean-François soit concentré sur la partie sportive et n'avoir aucun souci technique par ailleurs.
Oui, ouais, non, ça a été compliqué à gérer tout ça, on l'a compris. On a déjà beaucoup de temps qui passe, tu vois, Jean-Louis, parce qu'on aime bien. Moi, je pourrais t'écouter parler pendant des heures, mais ça va pas être possible. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la troisième partie, le dessert du jour, le fameux questionnaire du bistrot vélo. Je vais te poser quelques questions et il va falloir essayer de répondre assez court, parce que je sais que tu aimes parler. Moi, okay. moi, je peux t'écouter pendant des heures, mais on va pas se faire des copains.
Promis.
Ta plus belle rencontre pendant ces 34 ans de Tour de France?
Bernard Hinault,
pourquoi ?
Que j'ai connu coureur la dernière année et que j'ai connu côté organisation. Et c'est un monsieur, moi, que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il s'est mis à... Tu imagines que, voilà, il va t'expliquer, entre guillemets, pardon, il va t'expliquer la messe. Non, il t'a dit, je vais regarder et après, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Mais il a écouté et il a regardé comment ça marchait.
Bernard Hinault, ton plus grand moment de stress ?
Oui, évidemment, le bus en Corse,
ouais.
Mais également du côté d'Aix-les-Bains, un terre-plein qui, à 2h du matin, quand j'arrive un peu tard, et il y avait un terre-plein qui devait être raboté, etc., qui ne l'était pas, donc il a fallu appeler le maire à 3h du matin pour raboter le truc. Mais bon, voilà, c'est de la gestion immédiate. Voilà.
Quels sont les ingrédients pour une belle arrivée du Tour de France? Il y en a beaucoup.
Alors, En montagne ou
peu importe, je sais pas, un beau revêtement, une belle ligne droite. Toi, c'est quoi ton arrivée rêvée?
Moi, l'arrivée pour laquelle, enfin, je suis fier, mais j'étais pas seul. Attention, hein, mais c'est la proposition qui a été faite à Christian Prudhomme d'arriver au sommet du Galibier.
En 2011.
On a fait un repérage avec, il y avait un repérage informel avec, mais j'étais passé avant, hein, avec Bernard Thévenet et Christian Prudhomme, et un représentant du département donc des Hautes-Alpes. À un moment donné, a surgi l'idée, je le raconte un peu dans le livre, a surgi l'idée éventuellement de faire l'arrivée à hauteur du tunnel du Galibier. Si ce n'est qu'à hauteur du tunnel du Galibier, tu es à 1 km du sommet.
C'est ça.
Et que dans mon idée, on se loupait si on faisait ça à 1 km du sommet. Il fallait qu'on fasse l'arrivée en haut. Et donc là, j'ai discuté avec Christian qui était convaincu de la faire, mais qui en même temps, dans un premier temps, n'avait pas perçu. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'on a commencé à décliner les moyens techniques de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on a toujours fonctionné majoritairement unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Tu es journaliste, tu sais très bien que si la salle de presse est proche de l'arrivée, c'est beaucoup plus facile pour vous. En l'occurrence, aujourd'hui, vous allez me le confirmer, mais je m'aperçois bien que les moyens sont déportés. Je suis certain que quand le tour va arriver au Granon, il y aura quelques éléments au sommet, même si on avait fait, nous, déjà une arrivée au Granon en 86. Je n'étais pas responsable de l'arrivée. Mais il y aura quelques éléments au Granon et le reste va se situer dans la vallée.
À Briançon, oui. Ouais.
Et donc, on est en train de décliner ça. Si ce n'est que, mon sentiment, on généralise peut-être un peu trop la déclinaison des moyens. Cette signature qui faisait le tour, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, comme au théâtre classique, se perd un peu, mais en même temps, la justification est tout à fait valable, évidemment, c'est... Christian le dit, il faut que le tour puisse aller là où le sport l'emmène.
C'est ça.
Et donc, au détriment parfois d'un certain confort, de proximité, de salle de presse ou de moyens techniques, il faut penser à ça. Et c'est l'évolution du tour. C'est tout à fait normal et légitime.
Jean-Louis, le plus beau panorama, le moment où tu as été subjugué, que ce soit n'importe où en France, à l'étranger, en haut d'un col, où tu t'es dit, tu t'es arrêté deux minutes, tu as regardé autour de toi et tu t'es dit, ah ouais, là quand même, c'est la France, c'est beau.
Alors, il y en a plusieurs. La pierre Saint-Martin,
ouais.
On était au-dessus des nuages, en fait.
Donc, d'accord.
On installe, tu sais, les nuages sont un peu plus bas que le sommet des montagnes. C'était absolument magnifique. Et puis oui, le souvenir, moi, qui m'a marqué, c'est la première fois que je rentre sur les Champs-Élysées quand il n'y a rien, quand il n'y a personne. Les Champs-Élysées sont à toi, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin, pour le provincial que je suis, avec tout ce que peuvent représenter les Champs-Élysées, voilà. Les Champs-Élysées, tu vois, c'est la montagne et la ville en plein pot, quoi.
Combien de jours par an dans la voiture, à l'hôtel Parce que j'ai lu dans le livre que déjà au début, tu ne dormais pas beaucoup et que tu étais souvent en vadrouille. Ouais. Pas facile, la vie de famille, hein.
Pas facile, donc marié avec une dame qui est toujours mon épouse, nous avons deux grandes filles, tout va bien côté familial, on savait comment on fonctionnait, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. 200 nuits à l'hôtel par an et entre 100 et 120 000 kilomètres.
Ah quand même.
Parce que je suis convaincu, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai aperçu un article dans un journal, Le Figaro, là, qui évoque le travail de Stéphane Goury, c'est ça, et Christian le confirme, c'est... Un commissaire général, en fait, il doit être au contact du terrain, il doit aller voir évidemment le terrain et ensuite voir les gens. Et il faut du temps. Et à mon avis, le tour mérite justement qu'on y passe du temps. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut être présent et il faut que les gens qui reçoivent le tour, les collectivités, les services, etc., personnifient quelqu'un qui techniquement a les réponses aux questions qu'ils se posent.
200 nuits à l'hôtel par an, ça donnait une question à notre réalisateur Sébastien Petit. Du coup, tous les hôtels, tu les connais. L'endroit où on mange le mieux en France?
Ça, si je dis un endroit, je vais me fâcher avec tous les autres. En fait, c'est ça. Il y a la gastronomie est bonne partout.
Ouais.
Bon, j'ai un petit. Ouais, mais bien sûr, évidemment, toutes les régions. Alors, j'ai un petit penchant. Je me mouille un peu plus. J'ai un petit penchant pour le Pays Basque.
Ah.
Mais voilà, mais bon, après, c'est moi. Mais, oui. Mais la Bretagne est très bien, le Limousin est très bien, l'Alsace, n'en parlons pas, le Nord, les gens sont charmants. Enfin, moi, vous entendez, vous avez compris, à mon accent, que je ne suis pas né à Dunkerque.
Non, un accent chantant.
Mais en revanche, j'ai trouvé, moi, beaucoup d'affinités entre les gens du Nord et les gens de chez moi. Nous, chez nous, dans le Sud, on est... Alors, on nous qualifie un peu de grande gueule et de voilà, on est très expansif, très... Mais bon, avec les gens du Nord, moi, ça s'est très bien passé parce qu'évidemment, il y avait le tour en organisation, mais Paris-Roubaix. Donc, j'ai créé, moi, des liens, des amitiés qui m'ont marqué, des gens absolument charmants qui t'ouvrent leur maison. Alors que nous, dans le Sud, c'est plus facile d'accueillir les gens dehors parce qu'il fait beau et parce que mais les gens du Nord te font rentrer chez eux, quoi. Ils se livrent à toi et c'est très agréable.
Jean-Louis, le coureur, même si tu n'étais pas trop dans ce côté sportif, est-ce qu'il y a un coureur qui t'a impressionné, le plus impressionné, qui t'a marqué?
Ben moi, j'ai vécu les années Indurain. Et d'ailleurs, voilà, enfin, je l'ai revu sur le tour. Enfin, il est venu sur le tour de manière très discrète. Enfin, on le connaît, en tout cas, pour ceux qui l'ont pratiqué. C'est quelqu'un de très discret.
C'est un taiseux.
Ouais, complètement. Et moi, il est arrivé sur le tour, je crois que c'était du côté de Hautacam. Hautacam, je suis sur la ligne d'arrivée, c'est installé, machin, les bus sont là. La caravane publicitaire, je crois, est passée. Et qui je vois dans le public? Miguel Indurain. Et je me dis, mais c'est lui. Oui, et lui me fait un signe. C'est-à-dire que lui me reconnaît. Quoi.
Génial. C'est
un truc de fou. Quoi. Et, alors évidemment, à l'époque, on avait des accréditations, des machins, donc rentrer dans le bus, ouais. Etc. Même s'il ne voulait pas vraiment, mais voilà, ouais, il m'a marqué, ce monsieur.
Miguel Indurain, on a parlé. Il y a la planche des belles filles qui va arriver. Je sais que tu étais un petit peu dans l'organisation. Tu as vécu l'arrivée, toi, à la planche des belles filles. On y sera ouais. Vendredi. Un mot très rapide sur la logistique de la planche des belles filles.
Bah, une belle découverte de la planche des belles filles. Donc, c'est Christian qui veut mettre les massifs intermédiaires. Enfin, il a sa logique sportive qui est tout à fait légitime. Si ce n'est qu'il m'a envoyé vers la planche des belles filles. Il y avait un petit plateau, une petite plateforme. Un cabanon au fond et rien après, si ce n'est qu'il y avait une plateforme au-dessus qui, à mon avis, pouvait accueillir les moyens du tour à condition de mettre des plaques, de stabiliser un tout petit peu.
Ouais.
Et donc, a été créée une rampe d'environ 500 mètres de bitume. Et cette arrivée, voilà, moi, je voyais le coureur sortir de nulle part. On voyait d'abord son casque, sa tête, son torse. Et il arrivait dans la la beauté des forêts vosgiennes. Enfin, je l'ai vu avant tout le monde, même si je ne suis pas spécialiste, et ça s'est réalisé. Alors aujourd'hui, évidemment, on rajoute un élément supplémentaire puisqu'il y a la super planche des Belles-Filles, donc ouais. Avec ce tronçon qui n'est pas bitumé. Bon, c'est légitime aussi, le sport, hein, toujours pareil, si c'était que, bon, certainement, la caravane publicitaire ne passe pas la ligne d'arrivée, ou en tout cas, il y a des petites pirouettes qui permettent justement de faire en sorte que sportivement, ça vaille le coup. Ouais, mais la planche des Belles-Filles, oui, c'est un excellent souvenir. Hein.
La super planche des Belles-Filles.
D'ailleurs, je dois normalement y aller à la fin du mois de juillet, parce que Yves Cratinger, donc, qui est le président du département, m'a demandé d'aller parler du livre.
Mais il faut que tu montes à vélo.
Je vais m'entraîner.
La super planche de Belles-Filles qui accueillera également l'arrivée du Tour de France femme cette année. Exactement. Tour de France, j'avais une question de Timéo. Toi qui étais dans les petits papiers du côté du Tour de France, est-ce que c'est vrai que fin des années 90, début des années 2000, on a envisagé du côté du Tour de France d'aller rendre visite à nos amis de Martinique et de Guadeloupe?
Exact.
Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ben, moi, d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais certes un peu dans les petits papiers, les secrets, mais il y avait une histoire de décalage, en fait, en termes de…
6 heures de décalage horaire.
De crédibilité. Alors, il y avait une histoire de Concorde à l'époque, avion Concorde qui ramenait les coureurs.
D'accord.
Ils partaient de Pointe-à-Pitre, ils atterrissaient à Brest, ils descendaient de l'avion, ils montaient sur un vélo, ils faisaient une étape. Donc, quelque part, Jean-Marie, à un moment donné, a freiné les ardeurs en disant, écoutez, attention, il faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que bon, voilà, il faut arriver à justifier le truc. Alors certes, c'est peut-être réalisable, mais dans d'autres conditions, mais là, c'était pas indéfendable, mais en tout cas, c'était assez compliqué. Ouais. Il fallait pas le faire.
D'accord. Ok. Le mot de la fin, on va te le laisser. Si tu avais, ça va être plus compliqué, mais si tu avais un mot pour qualifier, pour définir le Tour de France, ça serait lequel?
Magique.
Ça résume tout, c'est bien.
Magique. Écoute, alors en plus, à des postes comme ça, bon, aujourd'hui, il y a Stéphane, il y a d'autres commissaires généraux, mais quand tu pars, donc moi, c'était crayon-papier. Hein. Bon, aujourd'hui, les techniques sont différentes avec des écrans, des machines, des trucs, mais moi, c'est crayon-papier et je dessinais, je les ai tous mes cahiers, hein. J'ai tous mes cahiers. Et avec, au dessin, crayon-papier, je dessinais les arrivées. Et voilà, et ça, tu jetais sur le papier ce qui allait se réaliser au mois de juillet. Tu étais déjà, enfin, c'est magique.
Dernière petite anecdote, Jean-Louis, est-ce que c'est vrai que toi, tu étais monsieur craie? Tu voulais pas utiliser la bombe, tu faisais avec une craie la fameuse ligne d'arrivée du Tour de France, au millimètre.
J'aime pas les bombes, hormis pour le street art. J'adore, le street art, j'adore ça. Mais en revanche, oui, non, pas laisser de traces, si tu veux. J'aime bien ce principe aussi. La craie, ça s'efface, quoi. Ça disparaît. Mais en revanche, le fait de marquer à la craie, j'avais les responsables de certaines des équipes qui me suivaient pas à pas. Et le coin de la tribune de presse, le coin du protocole, la ligne d'arrivée avec le A entouré. Enfin, voilà, c'était… Après, comment te dire ça? Tu crées l'histoire aussi. C'est-à-dire que, attention, modestement, hein, mais tu… Il y a toute cette symbolique qui fait qu'à un moment donné, voilà, c'est très éphémère. Et le tour est éphémère. Je veux dire, quand les gens sont sur le bord de la route, tu vois passer les coureurs, ça passe en 2 minutes, quoi. Et c'est magique. Les gens reviennent en se disant, mais ils sont embêtés pour y accéder en voiture, machin. Ils sont embêtés pour en repartir parce qu'il y a des embouteillages, des trucs, parce que tu cherches toujours la côte, le truc, et ils se quittent sur le bord de la route. Et c'est un mélange social qui est phénoménal. Tu as le chef d'entreprise, tu as l'ouvrier, tu as tout le monde. Et il dit, ah, c'était bien, on reviendra. Hein. Ouais, c'est inexplicable, donc c'est magique.
C'est ça, magique, rien que d'en parler, ça met presque les frissons. Le programme TV, parce que la suite continue, dès demain, Dunkerque-Calais, il y aura cette nouvelle étape, la suite du Tour d'Italie féminin également qui se déroule en ce moment sur les antennes Eurosport, en prélude du Tour de France femme qui partira de Paris. Et puis donc cette étape entre Dunkerque et Calais, on parlait du Nord tout à l'heure avec Jean-Louis, on y sera demain sur un peu plus de 171 km à suivre sur Eurosport. Bien évidemment, Jean-Louis, moi je pourrais passer des heures et des heures à t'écouter. Si t'es de passage sur Paris, je prends le café, le moment café volontiers pour pouvoir parler du livre. Je te ferai faire une dédicace sur mon livre en même temps, ça passera. Je rappelle le livre, Le Tour de France côté verso, n'hésitez pas, aux éditions Kenes. Et encore une fois, un grand merci Jean-Louis pour ce moment partagé. Je pense que beaucoup de gens ont appris pas mal de choses sur ce qui est en off, comme le dit bien ton livre, le côté verso, et qui vont filer acheter ce magnifique bouquin.
Merci.
Et j'espère te croiser rapidement, que ce soit en dehors ou sur la route du Tour de France, pourquoi pas.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Jean-Louis, c'était merci. Cool. Et puis rendez-vous lundi prochain à tous pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et puis vous le savez, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'émission directe, il y a le fameux podcast. À bientôt, bye bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.